Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vivante Église. Au micro pour intervenant, je reçois frère Baptiste. Bonjour frère Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes religieux de l'ordre du Carmel. Vous avez obtenu un doctorat en théologie à l'université de Fribourg. Vous êtes spécialiste de l'Ancien Testament avec des recherches qui portent sur les liens entre la Bible et la spiritualité après avoir été rédacteur en chef de la revue du Carmel. Aujourd'hui, vous êtes responsable des éditions du Carmel sur Toulouse, le Carmel de Toulouse. Voilà pour quelques informations en introduction. Le char des chérubins, tel est le titre de ce livre qui est une étude sur ce prophète Ézéchiel, ce premier chapitre paru aux éditions du Cerf. C'est une lectio divina, voilà, un travail d'étude, un travail de recherche pour vous. Et vous avez une préface de l'exégète dominicain Philippe Lefebvre qui écrit « Cher lecteur, vous allez lire un ouvrage rare. Son auteur est un jeune carme, frère Baptiste Sauvage, et c'est vous, qui vous convie à redécouvrir, à méditer l'un des chapitres les plus mystérieux de la Bible, le commencement du livre d'Ézéchiel. Vous confirmez ?
Je confirme.
Vous vous en direz un peu plus dans quelques minutes. Ce texte difficile, vous confirmez qu'il est difficile ?
Oui, hein ? Mais on va voir en quel sens.
À la réputation d'être obscur, voire incompréhensible, ça commence fort, mais faites confiance, voilà ce qu'il écrit sur vous, à votre guide carmélitain, dans cet ouvrage qu'il a écrit pour vous, car l'auteur et le livre sont animés par un esprit que l'on ne trouve pas si souvent chez les biblistes, l'esprit d'enfance.
Waouh !
Comment avez-vous reçu, réceptionné une telle préface du
dominicain ? J'ai été étonné.
Vous avez été étonné.
Et en même temps, ce que je reconnaissais derrière l'éloge de circonstance pour toute préface, hein, mais je reconnaissais c'est ça qui m'a réjoui, c'est que le frère Philippe Lefebvre a senti l'esprit du Carmel derrière ce travail, et donc et peut-être une manière carmélitaine d'approcher les Écritures qui ne veut pas dire qu'on met de côté la rigueur, l'attention aux détails du texte, mais que peut-être on entre dans cette dimension dont la Bible parle parfois, notamment la sagesse, hein, qui prend ses délices parmi les enfants des hommes, et cette question du jeu. On voit bien que cette sagesse se réjouit en présence de Dieu et invite les hommes à entrer dans sa joie. Et les Écritures, je pense, ont cet esprit-là. Il y a de l'humour, mais plus que de l'humour, en fait, il y a une sorte de joie enfantine dans la manière qu'a la Bible d'être écrite, et elle nous convie à cette joie-là. Donc, évidemment, le frère Philippe continue en évoquant la petite Thérèse, et je crois que c'est ça qu'elle avait compris. Quand elle médite les Évangiles, elle écoute tout, elle devine, elle entend même les silences de Jésus, et elle découvre ces secrets qui sont savoureux et qui invitent Thérèse à approfondir sa voie d'enfance spirituelle.
Alors vous avez approfondi, et c'est un travail laborieux, on veut bien l'imaginer, ce travail du premier chapitre d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui vous a décidé pour un tel travail, frère Baptiste, avant d'aller plus loin? Et on parlera très vite de Sainte Thérèse d'Avila qui apparaît dès les premières pages à l'introduction, et vous nous direz pourquoi. Alors oui. Pourquoi ce travail sur le prophète Ézéchiel?
Déjà, la première chose à dire, je pense, c'est qu'on ne peut pas forcément rendre compte d'une attirance pour tel ou tel passage des Écritures. Hein. Et je crois que c'est le cas de pas mal d'auditeurs, il y a des versets bibliques qui les attirent et ils en comprennent plus tard la raison, ou en tout cas ils en entreaperçoivent quelque chose un peu plus tard. Donc il y a une sorte d'attirance, comme si les Écritures en fait nous déchiffrent nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne comprend notre identité que par le moyen de ces Écritures, comme Jean-Baptiste par exemple, quand on lui demande qui il est, il dit « je suis la voix qui crie dans le désert ». Donc Il se définit en fonction d'Isaïe 40. C'est pour lui, c'est son identité, c'est Isaïe 40. Il habite dans ce chapitre. Alors, est-ce que je pourrais dire ça d'Ézéchiel ? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, il y a une attirance. Aussi parce qu'il est question de ce ciel ouvert. Donc, c'est une dimension qui est très forte aussi dans la spiritualité du Carmel, cette recherche du ciel. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus en détail quand on parlera de ce chapitre. Donc, c'est quand même une vision qui nous parle du ciel. Et autre raison, et ça c'était, on va dire, peut-être plus immédiat, c'est que je m'étais posé la question il y a quelques années sur les liens entre ce premier chapitre du livre d'Ézéchiel et la vie du prophète Élie. Et je croyais deviner que les liens étaient plus forts qu'il n'y paraissait. Notamment, Élie, on se souvient de sa vie qui se termine sur un char de feu après avoir traversé un fleuve. Et 4 siècles plus tard, Ézéchiel, qui est au bord d'un fleuve, va voir un char enflammé venir à lui. Et on pourrait dire que ça, c'est le constat initial. Mais ensuite, quand on creuse, beaucoup de liens unissent Ézéchiel et le prophète Élie.
Alors, avant de retrouver au cours de l'émission les liens entre le prophète Élie et le prophète Ézéchiel, vous démarrez un peu l'introduction de votre livre avec Sainte Thérèse d'Avila,
oui. Hein,
bien carmélitaine, la madre, et vous écrivez Sainte Thérèse d'Avila. Aiguillonné par le désir de communier, se précipite dans une église. C'est un peu le début du livre, donc le lecteur ou la lectrice, et j'ai été la lectrice dans ses premières pages, elle écrit « Quand je suis arrivée, un grand ravissement me fut donné, il me semble avoir les cieux s'ouvrir », et c'est dans Ézéchiel, hein,
oui,
chapitre 1.
Exactement.
Alors, etc., etc. Moi, j'invite les auditeurs à aller plus loin aussi et avoir peut-être le goût de relire ces passages dans l'Ancien Testament du prophète Ézéchiel. Quel lien entre Thérèse d'Avila, qui n'avait pas forcément connaissance et accès
à
l'Ancien Testament, quel lien entre cette vision de la grande Thérèse,
oui,
et ce prophète, expliquez-nous.
Les liens sont objectifs, c'est-à-dire que beaucoup de mots de la vision d'Ézéchiel vont se retrouver dans...
Les cieux s'ouvrir.
Voilà, les cieux s'ouvrir, donc ça c'est le premier verset du chapitre d'Ézéchiel. Elle va voir ces fameux 4 vivants dont elle ne connaîtra pas vraiment l'identité.
Le trône.
Est-ce qu'il s'agit... Voilà, c'est ça. Ouais. Les vivants sont-ils des évangélistes, des chérubins, des séraphins, etc. Et puis, comme vous le dites, effectivement, le trône sur lequel siège... une réalité mystérieuse, et Thérèse dit qu'elle croit y reconnaître la divinité. Donc effectivement, il y a ce lien aussi avec la vision d'Ézéchiel qui aboutit à travers plusieurs étapes jusqu'à la contemplation de celui qui siège sur le trône. On retrouvera aussi cette expression dans l'Apocalypse, évidemment. Et donc dans les deux cas, on a l'expérience justement de... On pourrait dire de l'autre côté du firmament, de l'autre côté du ciel, quelqu'un qui, par sa relation avec Dieu, est amené à découvrir les réalités célestes. C'est comme si le voile se déchire pour un instant et quelque chose du ciel leur est communiqué. Et chez Thérèse, cette expérience-là correspond à une maturité spirituelle. C'est-à-dire qu'elle est entrée dans cette vie d'oraison, d'intériorité, elle a reçu des grâces de contemplation, elle est passée par de grandes purifications aussi, et on pourrait dire que, parvenue à maturité, son âme étant désormais capable d'accueillir Dieu tel qu'il veut se donner à elle, eh bien, elle va vivre cette plongée dans le ciel, cette plongée en Dieu, qu'elle décrit en des termes assez semblables à ceux d'Ézéchiel, et qui nous donne à penser qu'un même esprit, après avoir inspiré les auteurs sacrés, les prophètes de l'Ancien Testament, continue à animer les saints dans l'Église et à leur faire vivre des choses assez semblables.
Alors, donc, en entendant parler, évoquer aussi Thérèse et cette vision du trône de Sainte Thérèse, il y a un changement de vie radical chez Thérèse. Est-ce que cette vision du trône, de la gloire de Dieu, au fond, de ce ciel qui s'ouvre, est, je dirais, le début de cette ouverture du cœur, début d'une vraie conversion, d'un vrai changement de vie au sein même du Carmel pour Thérèse d'Avila?
Je dirais plutôt qu'elle est l'épanouissement d'une conversion qui
a commencé...
Donc
une maturité spirituelle.
Voilà, c'est ça. On est vraiment à une maturité dans les termes carmélitains de la maison. C'est une étape qui s'appelle les fiançailles spirituelles. Donc, où quand elle en parlera dans les demeures, on en est au 6e demeure, donc pas encore au 7e, c'est-à-dire pas encore à cet aboutissement où l'âme est unie d'une manière constante à Dieu. Pour Thérèse, c'est le moment où justement Dieu commence la visiter et se manifester à elle tel qu'il est, dans sa gloire. On pourrait dire qu'avant, c'était une eau suave de contemplation, donc quelque chose d'encore savoureux, mais on pourrait dire qu'il ne ravit pas l'âme à Dieu. Là, il y a vraiment une expérience de la divinité en tant que telle, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le ciel tel qu'on y sera quand notre vie s'achèvera, espérons-le, mais quand même une expérience qui s'en rapproche beaucoup. C'est-à-dire, Jean de la Croix dira, il parlera de touche de la divinité qui renouvelle l'âme de l'intérieur. Et donc, après cette vision, Thérèse va recevoir la communication des autres vérités de la foi, comme elle parlera de l'Assomption de la Vierge Marie,
de la Trinité,
de la vérité des Écritures. Et pour elle, c'est le moment où ces vérités qui étaient obscures, désormais, elle les a touchées du doigt. Donc, c'est quelque chose qu'elle ne peut plus nier. Ou en tout cas, ce sont des réalités de foi auxquelles elle adhère non plus parce qu'elle y croit à l'obscur, mais parce qu'elle l'a touchée, expérimentée et qu'elle a été transformée dans ces vérités.
Qu'est-ce qui a favorisé, je dirais, une telle action de Dieu, d'un accueil aussi, de cette vision, au fond, du trône, de cette gloire de Dieu? Qu'est-ce qui a pu provoquer ce moment aussi où elle vit un moment de grâce? Est-ce qu'on peut parler d'un moment de grâce dans cette vision même du trône de Dieu?
Oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut même dire plus que d'un moment, on pourrait parler même d'une période, puisque c'est sur plusieurs années, Thérèse va recevoir ce genre de visite assez forte, qui chez elle aura des répercussions impressionnantes, parce que on se souvient de certains témoins disant l'avoir vu léviter, donc elle voulait à tout prix éviter de se faire remarquer, mais qui, à mon avis, ne sont pas du tout l'apanage des mystiques qui reçoivent des grâces extraordinaires et qui peuvent aussi prendre forme d'une manière plus discrète dans une vie chrétienne ordinaire, c'est-à-dire ce moment de maturité spirituelle où après on pourrait dire être passé par le feu d'une grande purification ou d'une grande préparation ou d'une dilatation de l'âme, on se prépare à recevoir des visites de Dieu plus profondes que d'habitude. Et donc pour Thérèse, c'est vraiment une période qui s'ouvre, une période qui va l'enrichir de grâce et qui va la préparer justement à ce fameux terme de la vie spirituelle qu'on appelle l'union de l'âme avec Dieu ou le mariage spirituel, c'est-à-dire un moment où après avoir été visité par le fiancé en quelque sorte et avoir reçu on pourrait dire les joyaux de grâce et de vertu hein, qui l'enrichissent spirituellement, elle sera prête pour être unie à lui d'une manière plus constante dans le centre de son âme.
Alors, vous évoquez, au fond, je dirais, ces différentes étapes de Sainte Thérèse d'Avila,
oui.
Bien connue pour certains, peut-être méconnue aussi pour certains de nos auditeurs.
Exactement.
Qui découvrent aussi celle qui est surnommée
la
Madre. Donc, on peut parler aussi d'une vraie maternité spirituelle.
Oui.
C'est une figure féminine.
Tout à fait.
Docteur de l'Église. Ce qu'on peut entendre en évoquant ce temps des fiançailles, ce temps aussi d'un mariage spirituel.
C'est ça.
Au fond, c'est le temps des épousailles. Thérèse d'Avila passe quelques étapes, au fond. Hein.
Voilà.
Vous avez évoqué ces 7 demeures, ce château intérieur.
Oui.
On ne va pas perdre les auditeurs qui découvrent, peut-être.
Non, bien
Thérèse
sûr.
Thérèse d'Avila, que faut-il? Quelles sont les bonnes portes pour entrer dans ce même chemin que Thérèse d'Avila, sans avoir pour autant une attente de vision extraordinaire?
Non, bien sûr.
Pour continuer sur ce chemin et, au fond, entrer dans cette vie mystique?
Oui, oui. D'ailleurs, il y a une belle expression qui permet
de... Faut garder tous les auditeurs.
Bien sûr, oui.
Avec nous.
Et une belle expression permet de comprendre ce qui s'est passé pour Thérèse et en quoi ça peut nous être utile, c'est l'expression du miroir grossissant. C'est-à-dire ce qu'elle a vécu en gros ou en grand, on est appelé à le vivre pas forcément d'une manière moins intense, parce que ça peut être très intense, mais ça peut être aussi très intense et discret. Et donc peut-être que pour nous, ça prendra des formes plus discrètes. Mais le moyen, par excellence, hein, que Thérèse enseigne, parce qu'elle est vraiment, comme vous le disiez, un docteur, donc mère des spirituels, le moyen par excellence, c'est celui de l'oraison, donc c'est-à-dire ce temps d'intériorité, de prière silencieuse, nourrie. Et là, c'est vraiment une invitation très forte, en particulier du Concile Vatican II, qui chez Thérèse aurait pu avoir... justement, aurait pu répondre à des aspirations fortes, mais on va dire que le temps de l'Église n'était pas encore parvenu à maturité. Mais donc, une oraison qui est nourrie par la méditation des Écritures. On sait que Thérèse avait moins facilement accès aux Écritures, si ce n'est par la liturgie ou par les œuvres spirituelles. Mais pour nous, c'est possible. Donc, méditons les Écritures. Et donc, pour Thérèse, il y a cet aspect de vie intérieure, l'oraison, la méditation des Écritures, et qui n'est jamais déconnecté de la pratique des vertus au quotidien. La charité, l'humilité, le détachement, les grandes vertus thérésiennes. Et mine de rien, sans peut-être que nous nous en rendions compte, on fera un bon bout de chemin avec Dieu. Et peut-être qu'effectivement, cette sainteté à laquelle il nous appelle nous sera donnée sans même que nous nous en rendions compte. Alors... c'est d'ailleurs, je pense, un bon critère de sainteté, c'est sa discrétion. Une sainteté ostentatoire est toujours un petit peu, pas suspecte, mais au moins soumise à un discernement plus affûté.
Alors, on ne perd pas de vue que dans ce Vivante Église, je vous reçois aujourd'hui pour donner peut-être le goût de plonger dans les Écritures, oui. Plus particulièrement dans l'Ancien Testament, avec parmi tous les prophètes, que ce soit Daniel, prophète Jérémie, Isaïe, il y a ce prophète Ézéchiel. On va en parler dans quelques minutes. Rappelez-nous le lien entre Sainte Thérèse d'Avila, qui a eu cette vision du trône, qui n'avait pas accès à l'Ancien Testament, oui. Qui n'avait pas accès donc, au livre d'Ézéchiel. Quel lien entre Thérèse d'Avila et, au fond, ce prophète Ézéchiel ?
Alors, il y a, me semble-t-il, beaucoup de liens qu'il faudrait mettre en évidence. Déjà, il y en a un qui est intéressant quand même de savoir, c'est que Thérèse venait d'une famille juive. Et donc, elle a baigné aussi, alors même que son grand-père s'était converti au catholicisme, dans des conditions un peu difficiles de l'époque. Hein. Mais elle a peut-être gardé quelque chose de cette sève de la spiritualité de l'Ancien Testament dans sa propre expérience spirituelle, tout en sachant que l'Espagne de l'époque était aussi imprégnée par cette spiritualité issue en particulier de la vision d'Ézéchiel. Donc Thérèse baigne dans ce milieu d'une manière plus ou moins consciente chez elle, mais on peut le deviner, même cette question du château intérieur n'est pas sans lien avec des expériences spirituelles du milieu de l'Espagne du siècle d'or et de l'Espagne médiévale de la spiritualité juive qui s'y déployait. Donc ça, on pourrait dire que ce serait une sorte d'influence culturelle, mais je crois qu'il y en a une qui est beaucoup plus profonde, c'est la permanence de l'action de l'Esprit-Saint dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le temps de l'Église. C'est-à-dire que ce que l'Esprit a fait chez Ézéchiel, il le réalise aussi chez les saints. Et cette ouverture du ciel à laquelle Ézéchiel est convié, elle va être proposée aussi aux grands spirituels de l'Église. Et donc, il y a cette marque du passage authentique de Dieu dont le critère fondamental pour Thérèse consiste à être vérifié sur le diapason des Écritures. Pour elle, c'est très important. Est-ce que mon expérience spirituelle correspond aux vérités des Écritures ? C'est l'expression qu'elle emploie. Et donc, ce que Thérèse va faire, c'est qu'après avoir eu ce genre d'expérience, celle dont on a parlé, par exemple, elle en parlera à ceux qui connaissent les Écritures, donc les théologiens de son époque, pour vérifier s'il y a cette conformité, cette continuité, cet enracinement. Et pour elle, ce sera le signe de cette authenticité de l'expérience de Jésus.
Donc, on entend bien aussi chez Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, une certaine prudence.
Exactement.
Elle a besoin d'un point de vue humain, tout simplement, de faire vérifier.
Tout à fait.
Au fond, l'information.
Oui. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est...
Pour éviter l'égarement, au fond.
Pour éviter l'égarement.
Et l'erreur.
Dont on avait très peur à l'époque, et peut-être qu'on ferait bien de s'en inspirer un petit peu parfois aujourd'hui. Peut-être que l'excès d'aujourd'hui, c'est justement d'avoir moins de prudence sur ces questions. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que on voit que Thérèse fait vérifier son expérience en la confrontant aux vérités des Écritures, et en même temps, par son expérience, nous fait comprendre que les Écritures sont beaucoup plus profondes qu'on ne pouvait l'imaginer. Parce que quand vous lisez, par exemple, Ézéchiel, et on va essayer
oui,
d'approfondir dans cette émission,
oui.
Hein, quand vous lisez Ézéchiel, vous pourriez vous dire que ça ne vous concerne pas. Et Thérèse, justement, en revivant ce que vit un prophète des temps anciens, est en train de nous dire « attention ». Parce que c'est l'histoire actuelle et de la même manière qu'Ézéchiel a été transformé pour devenir prophète dans son époque tourmentée, eh bien vous aussi, en vous laissant transformer par Dieu, vous pourrez devenir des prophètes pour votre temps.
Frère Baptiste Sauvage, frère Carme, auteur de ce livre paru aux éditions du Cerf, et c'est plutôt une Lectio Divina, une étude, Le char des chérubins. Je vous propose de vous retrouver dans quelques instants après cette plage musicale pour entrer plus en profondeur dans ce message du prophète Ézéchiel où se vit le mystère. À tout de suite.
À tout de suite.
Église, Nathalie Cardon.
Suite suite de ce Vivante Église du jour consacré au prophète Ézéchiel. On est dans l'Ancien Testament, on est aussi avec frère Baptiste Sauvage. Vous ne nous avez pas quittés, vous êtes carme et vous êtes auteur de ce livre paru aux éditions du Cerf, Le char des chérubins, si bien intitulé. C'est le rappel aussi de la vision aussi du prophète Ézéchiel.
Oui.
Prophète Ézéchiel, parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, un prophète aussi en temps de crise.
Exactement.
Hein, et on pourrait rappeler que cette période ressemble peut-être à une période actuelle pour notre monde qui semble être un monde dans la confusion, dans l'épreuve,
oui,
dans les guerres, dans les famines, une époque troublée.
Oui, hein. et c'est vrai que passer du temps auprès de ce prophète, c'est vraiment entrer dans une grande espérance. Parce que justement, il est appelé au moment où tout est perdu à vue humaine et où tout aussi va être reconstruit. Donc, Ézéchiel, c'est vraiment ce prophète-là, on pourrait dire celui qui témoigne de la capacité qu'a Dieu de reconstruire sur des ruines. Et donc, se mettre à son école, c'est aussi ne pas minimiser peut-être les crises hein, que nous vivons ou qui nous attendent encore, mais voir plus loin et savoir que le Seigneur garde, on pourrait dire, son projet bienveillant sur l'humanité, sur son Église, et que rien ne pourra l'empêcher de le réaliser. Et que pour cela, il se suscite des amis pour entendre justement les secrets de son cœur. Et Ézéchiel fait vraiment partie de ceux qui nous aident à écouter Dieu.
Alors comment approcher ce grand prophète, hein, Ézéchiel ?
Alors peut-être déjà en comprenant qu'il apparaît à une époque bien précise. C'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, donc on, par exemple, si on reprend à partir de David, on est donc vers 1000 avant Jésus-Christ, hein, le peuple d'Israël est unifié autour d'un roi, mais dès son fils Salomon, l'idolâtrie commence à entrer dans le peuple, et juste après Salomon, Roboam, un premier schisme va s'introduire dans le peuple qui séparera l'Israël du nord et du sud. Donc, très tôt, après l'unification du peuple autour du roi, les problèmes commencent, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que, au sein de ce peuple, le Seigneur fait se lever des prophètes qui vont avoir une parole constante, c'est-à-dire une invitation à la conversion, au rappel de la loi, des commandements, et aussi un message qui se fait de plus en plus pressant et urgent, invitant le peuple, le roi, à revenir vers son Seigneur pour éviter justement de faire venir sur lui la catastrophe dont le Seigneur voudrait les préserver. Vous avez Osée, vous avez Michée, Amos, etc. Vous avez Isaïe qui invite à la conversion, mais qui annonce aussi des grandes purifications à venir si le peuple ne revient pas vers son Seigneur. Et on pourrait dire que sur plusieurs siècles, une parole constante est dite par les prophètes, oubliée ou ignorée par beaucoup. Et certains pourraient se dire, voici des prophètes de malheur dont la parole n'est pas si opérante qu'elle ne semblait l'être. Jusqu'à ce que se lève un autre prophète qui s'appelle Jérémie et qui lui va être contemporain de la catastrophe, c'est-à-dire des armées de Babylone qui arrivent sur la ville de Jérusalem et qui vont commencer une première déportation. Ézéchiel arrive juste après.
Quelle est la mission première au fond d'un prophète ?
Excellente question, parce qu'on pourrait dire le prophète c'est celui qui annonce l'avenir. Et c'est pas faux, parce qu'effectivement, dans ce regard prophétique, il y a cette participation au regard de Dieu sur le temps, et donc aussi sur son projet pour l'avenir d'un peuple. Mais c'est surtout, je crois, le témoin de Dieu pour son temps, c'est-à-dire celui qui va annoncer au peuple sa parole et qui va la redire à travers les mots de ses contemporains, c'est-à-dire celui qui va rendre toujours vivante aux oreilles du peuple la parole de Dieu. Il est celui qui est appelé par Dieu pour dire sa parole, pour poser des gestes qui vont rappeler au peuple son dessein et inviter à la conversion.
Alors, à quoi reconnaît-on le prophète aujourd'hui?
Oui, alors...
Frère Baptiste.
Souvent, bah, et là, on a le grand critère de Jésus.
Il faut vérifier parfois.
Comment?
Vérifier, être
c'est
prudent.
Ça, effectivement. Hein? Déjà, on pourrait dire cette... comme on le disait de Thérèse d'Avila, c'est-à-dire cette... est-ce que cette parole est enracinée dans la révélation? Donc, est-ce qu'elle est cohérente avec les Écritures, avec la tradition de l'Église? Donc, on pourrait avoir là un premier critère, mais ce premier critère n'empêcherait pas les falsifications, parce que vous pouvez avoir de très bons imitateurs. Hein Et donc, est-ce que la vie de ce prophète aussi est en cohérence avec la parole qu'il prononce? Et puis profondément aussi, je crois, c'est mais qui rejoint ce critère de la vie, c'est-à-dire que est-ce qu'il est transformé par cette parole, est-ce qu'il est capable d'entrer dans une obéissance aussi au ministre de l'Église.
Quelle est la particularité du prophète Ézéchiel? Si on devait le comparer, on n'est pas là pour comparer les prophètes de l'Ancien Testament, oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une particularité chez ce prophète-là, d'Ézéchiel?
Je dirais volontiers que sa mission n'est pas tant de dire des choses nouvelles, même si évidemment il en dira parce qu'il a son originalité, mais elle est surtout d'être le témoin de la vérité de ce qui s'est dit pendant les siècles qui l'ont précédé. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, très rapidement, hein, les prophètes ont invité à la conversion pour que justement le peuple puisse être sauvegardé des catastrophes qu'il se préparait pour lui-même s'il ne voulait pas entrer dans le projet de Dieu sur lui. Donc les prophètes ont mis en garde pendant des siècles et des siècles. Le peuple n'a pas écouté. La catastrophe est arrivée, donc en particulier l'exil à Babylone. Et Ézéchiel fait partie des exilés et il est suscité par Dieu pour être justement... c'est ça qui est paradoxal, c'est que au sein, on pourrait dire, de la plus grande défaite, alors ouais. que le peuple a tout perdu, le temple est sur le point d'être détruit, les élites sont dispersées, le peuple est décimé, on n'est plus sur notre terre, donc tout est perdu. Au moment où tout est perdu, eh bien, il y a justement quelqu'un qui est le témoin de la vérité des paroles de Dieu. C'est-à-dire que le fait d'avoir tout perdu est justement le plus grand critère d'authenticité de ce qui s'est dit auparavant. Et donc, si la parole de Dieu a dit vrai, si les prophètes que l'on n'a pas voulu écouter, que l'on qualifiait de prophètes de malheur, ont dit vrai, ça signifie que cette parole est vraiment vivante et efficace, qu'on peut s'appuyer sur elle. Et donc, quand elle va évoquer cette reconstruction, cet avenir qui peut s'ouvrir sur le peuple s'il accepte d'entrer dans ce projet de Dieu, eh bien, cette parole sera une parole sur laquelle on pourra se fonder.
Quand on vous écoute parler de ces prophètes,
hein, oui.
frère Baptiste, ces prophètes sont un don, en fait, et
exactement.
Un cadeau dans l'histoire, je dirais, l'histoire de l'Église, tout simplement l'histoire de l'humanité, l'histoire de notre monde.
Oui, tout à fait.
Des prophètes qui n'ont pas toujours été écoutés, comme vous l'avez dit à l'instant.
Voilà.
Et qu'on est, voilà, nul n'est prophète dans son pays.
Exactement. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Et c'est vrai que
c'est le mystère aussi qui se joue autour du prophète.
Oui,
il est souvent incompris.
Il est par nature incompris. Oui, oui. C'est vraiment la parole de Jésus. Donc peut-être méfions-nous aussi des prophètes à succès. Parce que, alors, ça ne signifie pas justement qu'un prophète qui est entendu, apprécié, qui nourrit, enfin qu'un prophète, que quelqu'un, enfin, on verra plus tard s'il est prophète. Mais justement qu'un spirituel qui est nourri, qui nourrit le peuple de Dieu, ça ne veut pas dire effectivement, évidemment, qu'il faut systématiquement s'en méfier. Mais le succès n'est pas un critère suffisant pour attester de l'authenticité d'une parole prophétique.
Alors, c'est important là ce que vous soulignez dans ce Vivante Église, puisque nous restons dans l'histoire, au fond, l'histoire biblique.
Oui. Hein,
c'est un grand personnage, ce personnage,
oui,
d'Ézéchiel.
Exactement.
Que peut-il nous dire, frère Baptiste, aujourd'hui, l'époque que nous traversons? J'annonçais cette période qui est un peu ténébreuse,
oui.
Qui paralyse parfois des cœurs.
Oui.
Voilà. Que peut-il nous dire, ce prophète, si on fait un peu une immersion de lecture dans l'Ancien Testament, et particulièrement d'Ézéchiel?
Oui, alors je pense qu'on l'approfondira en creusant cette vision par laquelle il est appelé, cette vision inaugurale.
On va en parler la semaine prochaine, voilà, dans cette ça. Même émission.
Mais, ouais. mais avant d'y arriver, je dirais très volontiers, et c'est peut-être ça qui pourrait même résumer, pas le message parce que c'est trop faible, que la parole dont il est porteur,
ouais, ouais.
C'est que quand tout est perdu sur la terre, quand tout semble perdu sur la terre, en réalité, tout continue à subsister dans le cœur de Dieu. Et il est prêt à nous le rendre d'une manière plus grande encore que ce que nous croyons avoir perdu. C'est un peu déjà la loi du centuple dont parle Jésus. Celui qui perd quelque chose par amour de lui et de son évangile va le retrouver au centuple. Et pour Ézéchiel, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout ce sur quoi sa vie était fondée, c'est-à-dire le temple, il est prêtre, donc il a fondé...
Important de le
on peut penser,
dire,
oui, c'est ça, il, oui. Et on peut penser qu'il avait 30 ans, même s'il y a une 30e
oui,
année
oui.
du premier verset qui pose question, mais on peut penser qu'il avait 30 ans, donc qu'il a connu le temple de Jérusalem, qu'il a été formé pour y officier, qu'il a reçu toute cette éducation, tout cet héritage culturel. Donc le temple est sur le point d'être détruit, lui-même en est exilé, donc il ne peut plus exercer ce pour quoi il a été fait. Donc on pourrait dire tout ce sur quoi il a bâti sa vie s'effondre. Le peuple, on l'avait dit, est décimé. Une bonne partie a été tuée par les invasions de Nabucodonosor à Jérusalem. Et c'est pas fini, parce qu'il y en aura une deuxième qui sera plus terrible encore. Il est loin de sa terre, donc on pourrait dire que effectivement il est déraciné, et tout ce qu'il croyait avoir perdu, eh bien dans cette vision inaugurale va lui être rendu. C'est-à-dire que le temple terrestre, lui, il en est privé, mais il lui est rendu par un temple céleste qui va commencer à s'ouvrir pour lui. Une terre lui est enlevée, mais il en découvre une nouvelle qui commence à s'ébaucher dans le ciel. Un peuple est décimé, mais il découvre dans le ciel même les germes d'un peuple nouveau qui est sur le point d'être constitué ou refaçonné. Et donc, je crois que ce serait vraiment une des perles à découvrir avec ce prophète-là, c'est que il n'y a jamais d'époque si terrible qui puisse nous ôter le don que Dieu veut nous faire. Et quand il semble être en voie de disparition, eh bien, il continue à subsister dans le cœur de Dieu. Peut-être qu'il passe par une purification pour nous être rendus d'une manière plus grandiose encore que ce que nous avions connu auparavant.
Alors, vous décrivez très bien, et merci pour ces quelques points qui décrivent parfaitement aussi ce prophète Ézéchiel. On retrouve aussi Sainte Thérèse d'Avila, vous en parliez
oui.
tout à l'heure, tout au début de ce Vivant Église. Thérèse d'Avila, tout comme le prophète Ézéchiel, tous deux, dans leur parcours respectif, ils vivent une forme aussi d'effondrement.
Exactement, exactement.
En vue d'une restauration.
Oui, et c'est un peu...
Grande purification, ils
oui,
sont dépossédés.
C'est une sorte de constante, aussi bien dans les Écritures que dans la vie de l'Église. Hein. C'est-à-dire que, et même reprenons l'exemple le plus parlant, qui est le sacrifice d'Abraham. Hein. Donc Dieu lui demande ce fils, Isaac,
oui.
le fils
oui.
de la promesse, ce sur quoi il avait bâti toute sa vie, et même qui constituait la promesse de Dieu pour lui, parce que c'est à partir d'Isaac qu'une descendance lui était annoncée. Eh bien, c'est exactement ça que Dieu va lui demander de lui offrir, évidemment pour lui être rendu. Et donc, cet effondrement, est, évidemment, qui ne réjouit pas le cœur de Dieu, c'est-à-dire que nous n'avons pas un Dieu qui trouve un malin plaisir à nous faire souffrir hein, pour nous rendre plus sains encore. Il n'y a rien de...
C'est
il n'y a pas d'arrière-pensée.
C'est pas un père fouettard.
Voilà, exactement.
Oui, on est d'accord.
Mais ce grand passage, cette purification, cette grande épreuve, pour parler des mots de l'Apocalypse, eh bien, est comme une sorte de passage obligé, cette porte étroite dont parle Jésus dans les évangiles, qui conduit à la vie.
Et donc, qui ouvre le ciel.
Et qui ouvre le ciel, c'est ça. Quand tout est perdu sur terre, tout subsiste encore au ciel pour être rendu dès cette terre même, parfois aussi.
Et c'est ainsi que nous terminons ce Vivante Église du jour. C'est un aperçu pour donner, je l'espère, à chers auditeurs, le goût de vous plonger ou de relire, de découvrir, de méditer ce prophète Ézéchiel de l'Ancien Testament. Frère Baptiste Sauvage, auteur de ce livre paru aux éditions du Cerf, une Lectio Divina, une belle étude aussi sur ce prophète, le char des chérubins. Je vous propose de vous retrouver dès la semaine prochaine. On ira un petit peu plus loin sur ce prophète, très précisément que vous venez de nous présenter, Ézéchiel, avec aussi des visions bien particulières.
Exactement.
Des visions peut-être pour aujourd'hui.
Aussi.
À la semaine prochaine. Merci.